Chapitre 56, Esprit mal équilibré. Dieu a confié à chacun d'entre nous des dépôts sacrés dont il nous tient responsables. Il désire que nous cultivions notre esprit afin que nous soyons aptes à faire fructifier les talents qu'il nous a donnés. Nous devons nous servir de ces talents afin d'accomplir le plus de bien possible et glorifier celui qui nous les a confiés. Toutes nos facultés intellectuelles ont Dieu pour origine. Elles doivent être judicieusement employées et dirigées afin de servir au but que Dieu a fixé. Une telle discipline permettra le déploiement des énergies de l'âme et l'épanouissement de chaque faculté. Notre vigueur intellectuelle en sera accrue et le but atteint. Beaucoup de gens ne font pas tout le bien qu'ils pourraient parce qu'ils exercent leur intelligence dans une seule direction et négligeant les activités pour lesquelles ils ne se sentent pas aptes. Certaines de nos facultés sont à l'état embryonnaire et nous les laissons dormir parce que l'effort qu'il faudrait faire pour les développer ne nous est pas agréable. Mais il faut que nous cultivions notre esprit. Pour que celui-ci soit équilibré, il est nécessaire que l'observation, le jugement, la mémoire, les capacités de raisonnement soient également exercées. Si nous négligeons telle faculté au profit de telle autre, le dessein de Dieu ne s'accomplit pas entièrement en nous, car toutes nos facultés sont interdépendantes et réagissent l'une sur l'autre dans une grande mesure. L'une ne peut s'exercer efficacement sans le secours des autres, sinon l'équilibre n'est pas assuré. Le développement exagéré de telle ou telle qualité de l'esprit conduira les individus à des extrêmes. Il est des gens dont l'intelligence est atrophiée et sans équilibre. Tous les esprits ne sont pas d'ailleurs identiquement constitués. Certaines facultés sont très développées chez les uns et très peu chez les autres. Ces déficiences, si apparentes, ne sont pas une fatalité. On devrait s'efforcer de faire disparaître ces points faibles par un exercice approprié. Il nous est agréable de faire appel à nos facultés les plus développées, tandis que nous négligeons les autres. Mais il nous serait plus profitable d'exercer avec soin ces dernières afin que nous soyons en possession d'un esprit équilibré, dont chaque rouage, bien réglé, fonctionne à son tour. Nous sommes responsables devant Dieu à cet égard. Si nous ne tendons pas à ce plein épanouissement intellectuel, nous n'atteindrons jamais le but qui nous a été fixé. Or, nous n'avons pas le droit de laisser de côté aucun des talents que Dieu nous a impartis. Nous voyons tout autour de nous des gens atteints de monomanie. Ils sont souvent très capables, mais sur un seul point. Ils n'ont développé qu'un côté de leur esprit, allant ainsi jusqu'à l'épuisement et au naufrage de la personne tout entière. Une telle conduite n'a pas contribué à la gloire de Dieu. Si l'intelligence avait été développée harmonieusement, elle se serait maintenue saine, parce qu'elle n'aurait pas fait sans cesse appel à la même faculté, au détriment de celle-ci. Les prédicateurs devraient être sur leur garde, afin de ne pas substituer leurs plans à ceux du Seigneur. Ils courent le danger de limiter l'œuvre de Dieu à leur propre horizon en travaillant toujours dans les mêmes localités, et en n'accordant pas aux différentes branches de l'œuvre l'intérêt qu'elles méritent. Certains d'entre eux concentrent leur esprit sur un sujet à l'exclusion de tout autre. Ils sont les hommes d'une seule idée. Toutes leurs forces se portent sur un seul sujet. Ils perdent de vue toute autre considération. Leur thème favori occupe sans cesse leur pensée et revient continuellement dans leur conversation. Chaque fois qu'ils se présentent un argument à l'appui de leur thèse, ils s'en saisissent et en parlent si longuement qu'on se fatigue à les écouter. On perd fréquemment son temps en explications sur des sujets sans importance réelle et qui ne nécessitent pas de longues démonstrations. Les réalités vitales devraient être mises en valeur au moyen de tous les arguments qui peuvent souligner leur importance. La puissance de concentration sur un seul sujet est jusqu'à un certain point une qualité. Mais l'exercice constant de cette faculté fatigue les organes qu'elle met en jeu jusqu'à les épuiser, de sorte qu'on ne peut accomplir tout le bien que l'on devrait. En outre, toutes les parties du cerveau ne sont pas soumises à un exercice indispensable à la santé, et en conséquence la vie est raccourcie. Toutes les facultés devraient avoir leur part de travail, s'équilibrant harmonieusement l'une l'autre. Ceux qui concentrent toute la force de leur esprit sur un seul point sont déficients sur d'autres par le fait que leurs facultés ne sont pas également exercées. Leur sujet favori captive leur attention, et ils vont toujours plus loin dans le même chemin. Au fur et à mesure qu'ils sont intéressés et absorbés, ils découvrent de nouvelles connaissances et de nouvelles lumières. Mais bien peu de gens peuvent les suivre, à moins de considérer le même sujet avec une égale intensité de pensée. De tels hommes courent le danger d'enfouir la semence de la vérité si profondément que la jeune et précieuse pousse n'arrive jamais à la surface. Certaines personnes se livrent à des travaux difficiles qui ne leur ont pas été demandés, et qui ne seront jamais vraiment appréciés. La faculté de concentration ne doit pas être surestimée, sinon l'esprit manquera d'équilibre. Il en sera comme d'une machine dont seuls certains rouages travaillent sans cesse. Une partie du mécanisme se rouille tandis que l'autre s'use exagérément. Ceux donc qui exercent seulement une ou deux facultés de leur esprit ne font pas la moitié du bien que Dieu voudrait qu'ils accomplissent. Lorsque de telles personnes ont à faire un travail déterminé qui nécessite l'intervention de leur esprit, elles ne doivent pas mettre en œuvre toutes leurs énergies mentales sur ce seul point. À côté de leur occupation principale, il faut qu'elles consacrent une partie de leur temps à d'autres branches de l'œuvre. Cela vaudra mieux pour elles, et pour la cause en général. Il ne faut pas qu'une branche de l'œuvre retienne exclusivement notre attention au détriment de toutes les autres. Certains auteurs doivent veiller constamment que leurs écrits ne rendent pas obscur ce qui est clair, en accumulant des arguments qui soient sans intérêt pour le lecteur. S'ils s'étendent fastidieusement sur certains points, énumérant tous les détails qui leur viennent à l'esprit, ils perdent à peu près leur temps et leur peine. L'intérêt du lecteur ne sera pas suffisant pour aller jusqu'au bout d'une telle démonstration. Les vérités essentielles peuvent être obscurcies par la masse des détails. On a certes approfondi le sujet, mais le travail fourni n'aura pas tout le résultat qu'on en attendait parce qu'il n'a pas éveillé l'intérêt général. À notre époque, alors qu'une littérature séduisante attire les esprits, la vérité doit être présentée dans un style facile, avec l'appui de quelques preuves solides. Cela vaudra mieux que de creuser afin d'arriver à un déploiement irrésistible d'évidence, car beaucoup d'esprits ne peuvent discerner clairement la lumière après qu'on leur a énuméré toutes les objections et tous les arguments qui s'y rapportent. Pour beaucoup de gens, une affirmation vaut mieux qu'une longue démonstration. Ils sont prêts à s'incliner et les arguments sont superflus en pareil cas.